Bonjour, je m'appelle Robin.
Salut, moi c'est Somi.
Bienvenue pour la suite du deuxième épisode du podcast SoFresh en collaboration avec Netfeeders, consacré aujourd'hui à R, un graffeur de la banlieue nord-ouest de Paris.
Dans cette deuxième partie, on évoque avec lui ses autres activités dans le hip-hop. Car R, c'est un passionné qui ne s'est pas simplement consacré au graffiti.
On y parle de son émission de radio Flowmaster, dans laquelle il invitait des graffeurs, des rappeurs, mais aussi de toutes les jams auxquelles il a assisté à travers l'Europe.
Puis on évoquera la fabrication du fanzine Keep It Real, une revue autour du graffiti et de la culture hip-hop.
Il nous parle aussi de son rôle de manager du groupe de breakdance Connexion et l'importance de la danse dans les soirées hip-hop.
On évoquera aussi sa participation dans des ateliers graffiti en banlieue, dans le but de transmettre.
Il habite depuis une dizaine d'années sur l'île de La Réunion. Il nous raconte comment la scène graffiti s'est développée là-bas.
Donc 90, début 90, ça te parle les émissions de radio ?
90, radio, après la radio, effectivement, on écoutait Dynasty et Dynasty sur Nava tous les dimanches. Et tu sais quoi ? Mais c'est normal qu'on te copie, parce que tu es un bon MC et que tu as du style et que tu as du talent. Avec le doigt sur pour enregistrer. Et ouais, on écoutait beaucoup la radio aussi, c'était un vecteur, un des vecteurs du hip-hop, quoi, du mouvement hip-hop.
Quelques années plus tard, tu vas faire une émission de radio ?
Ouais.
Ou présenter une émission de radio ?
Alors, l'émission de radio, en fait, comment c'est passé, c'est que Kefe était DJ d'un groupe de rap de la Plaine-Saint-Denis. Je me rappelle plus le nom du groupe. Et les gars avaient besoin de Kefe pour l'émission de radio. Et donc, on est partis là-bas ensemble. Cette émission, c'était Cool et Radical. Donc, c'était à la Plaine-Saint-Denis. Quand on arrive là-bas, en fait, moi, j'étais du côté de la régie, tu vois, et avec le fait. Et le technicien nous dit que le gars qui fait l'émission, il se tire à l'armée et qu'il n'y a personne pour continuer. Et il nous demande, est-ce que vous voulez le faire ? Donc, on dit oui. Voilà, comme ça, comme on fait. Et donc, pendant un an, on a fait cette émission-là. Et donc le gars est revenu de l'armée, le gars qui avait créé Couleur Radicale, et on a tenu un an ensemble, pendant deux ans on a fait Couleur Radicale, et c'était pas le même délire, lui c'est branche, le gars était plus rap français, et donc au bout de deux ans on avait quand même rencontré pas mal de personnel de la radio, et donc on a été voir le directeur, on a dit ouais, est-ce que ça te dit qu'on fasse notre émission à nous, et donc on a fait une émission plus hip-hop et carrément graffiti, quoi, parce qu'on interviewait des graffeurs.
Elle s'appelle comment cette émission ?
Flowmaster.
Ouais, c'est ça.
Flowmaster.
Ouais.
Et le nom de l'émission, c'est une encre. C'est une marque d'encre.
Et c'était sur quelle radio, ça ?
Fréquence Paris de Muriel, 106.3 ouais. FM. Et voilà, parti dans Flowmaster. Donc, je sais même pas combien d'années ça a duré. Il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu Radouane. Il y a eu lui, Somi d'ailleurs, qui était aussi à la radio avec nous. Il y a eu des nanas aussi, il y a eu Magali, qui faisait standardiste. On a fait des concours. On s'est gagné des bombes de peinture, des True Colors.
Et du coup, il y a eu plein d'invités. Hein,
il y a eu énormément d'invités. On a invité, je dirais comme ça, on a invité tout le hip-hop français. On faisait venir des danseurs, on venait venir des rappeurs, on venait venir des graffeurs, des taggeurs, des graffeurs surtout.
Et même des étrangers, parce
beaucoup,
qu'il y a eu des étrangers.
Il y a eu des étrangers, il y a eu Après, on a été faire des interviews aussi, à l'extérieur. Quand on a commencé à bouger avec les jams, on a été interviewer les gars dans les jams. Donc des Américains, on a fait, je crois que les premiers Américains, c'était les Cool Crush Brothers, avec Grand Mixer DXT, Grand Master Case et Charlie Chase.
Et puis oui.
Puis oui, les Rocksteady Crew, ouais, il y a eu beaucoup de monde. Je pourrais pas te citer tout le monde tellement ça a duré des années cette aventure.
Même des gens plus jeunes.
Et comment ?
J'ai dit même des gens plus jeunes. Je me rappelle Alibi Montana
bien
qui
sûr.
Était passé.
Bah, écoute, Sniper est venu à l'émission. Alors ils sont venus avant, c'était un coup radical. Et ils étaient minots, ils s'asseyaient par terre sur la moquette dans le studio et ils regardaient les grands rabais.
Même des rappeurs américains qui étaient de passage à Paris.
On a fait Gunshot.
Les Anglais.
Les rappeurs anglais, ouais.
Et justement, tu parlais de cette période-là aussi, toute cette période de la radio, où aussi tu allais dans les jams. C'était quoi? C'était des jams, ouais, graffiti, des jams...
Jam hip-hop. Il y avait tout. Je crois que la première jam où on a été, c'était à Francfort. Et ça aussi, ça a été une claque, parce que quand on est arrivé à la soirée, déjà on s'est tapé, je sais plus combien, 700 bornes en voiture. Et t'arrives et à la soirée, t'as l'impression d'être dans les années 80 à Paris.
Alors que...
En 94 ou 95, tu vois.
Ah, c'est ça que je voulais te demander. On est en 94-95, ouais, d'accord.
Ouais. Okay. 80, ouais, je pense plus 94, je crois. Et on arrive à la soirée, là, mais les mecs étaient habillés comme nous dans les années 80. Ils étaient tous un Gangol, la Double Goose, les Puma Clyde, mais tous. Et break, alors qu'en France il n'y avait plus de break, c'était la hype. Et ouais, tu kiffes, quoi. C'était. Et par contre, que des bancs. Et il y a très peu de Renoir ou de Rebeu en Allemagne. Donc ça aussi, ça fait bizarre. Et puis, bah ouais, franchement, et puis la soirée, le jam se finit, on est dehors dans la rue et il y a un grand mixeur Jesse qui sort sa batterie et qui enchaîne les rythmes de masse de batterie et qui t'a. Tous les pionniers du break européen qui sont là en train de breaker dans la rue jusqu'à pas d'heure. Donc ouais, c'était mortel. Et puis ouais, on a enchaîné, on a Allemagne, Suisse, Hollande, Angleterre. À un moment, je crois qu'il y avait des jams. Il y avait des jams tous les samedis, il y avait un jam quelque part en Europe, tu ne pouvais pas suivre.
Et à un moment, tu te retrouves à organiser une jam en Angleterre. Tu peux nous en parler un peu comment...
L'histoire, c'est ça s'est arrivé. Alors on avait été au Battle of the Year de Offenbach, je crois que c'était 97. Je croise une Anglaise et c'est parti de là en fait. La meuf était en Angleterre, elle voulait organiser un truc en Angleterre. Et après on la croise en Allemagne, après je crois qu'on est parti à Rotterdam et elle était là aussi. Bref, elle a été là plusieurs fois dans des jams et on a sympathisé. Je m'occupais d'un groupe de danse, j'étais manager d'un groupe de danse, de breakers, qui s'appelait Connexion, avec des gars qui ont fait un bon bout de chemin dans le break d'ailleurs par la suite. On a eu l'idée de créer un jam France versus anglais.
Et tu te souviens qui? Ouais, tu te souviens qu'il y avait dans les gens avec qui vous étiez en Angleterre?
Bah il y avait Connexion, il y avait toi, il y avait la malédiction du meute du Nord pour le rap. En DJ, il y avait Kefé, Miko, Authentique, Graffiti, moi et Darko. Et je crois que je me rappelle plus des autres.
Ouais, je pense que c'était tout, ouais.
Je crois que c'est tout, ouais. Mais au moins, on était une bonne petite vingtaine quand même.
Ouais, ouais. Donc là-bas, vous êtes passé à la radio.
Il y a eu... Alors déjà, nous on est parti avant avec Darko parce qu'on avait fait un film sur le graffiti. On n'avait pas une baraque entière. Mais un truc qui a été diffusé que là-bas, je crois. Je dois avoir la cassette vidéo quelque part. Où en fait, on n'avait pas une maison à l'intérieur en entier. Mais partout. Avec plein de graffeurs anglais. Et on n'était que tous les deux français. Et on a fait ça. Et après. Il y a eu donc l'arrivée du car avec tous les il y avait aussi Junkie aussi en tant que DJ,
tout à fait,
parce que lui il était dans la malédiction du Nord.
Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, dans la soirée, un truc complètement fou, DJ Miko et DJ Authentique se mettent à mixer du rap français, ils font des sessions de rap français,
des sessions de rap français, les mecs deviennent ouf.
Les Anglais dansent comme des fous.
Ouais, un truc de ouf, ouais.
Mais on n'avait jamais vu ça.
Bah autant que nous, on a été dans des jams en Allemagne où il y a des mecs qui rappaient allemand. On captait même pas qu'ils rappaient en allemand, quoi. Donc ouais, jam en Angleterre, ouais, c'est un bon souvenir aussi, on devait le refaire. Après, du côté des Anglais, il y avait Ouch, DJ Ouch, qui est l'organisateur du UK Battle Championship, qui est là aussi par contre on a été beaucoup aussi là-bas en Angleterre, qui est un des plus vieux battles de break en Europe aussi. Et ça s'est mal fini. parce que la meuf anglaise, elle avait promis des trucs aux Anglais qu'elle a pas tenu. Du coup, ça ne s'est pas refait. On était sponsorisé par Evian, parce que c'est un truc français. Evian nous avait sponsorisé. C'est marrant. Evian n'a jamais sponsorisé une battle en France, quoi.
On peut parler du... Parce que je pense que c'est à peu près à cette période-là, il y a la création du fanzine Kipitril. C'était quoi ton rôle dedans? Comment...
Alors,
comment ça s'est créé?
Comment ça s'est créé? Alors, le fanzine Kipitril, en fait, Sino avait l'idée de faire un... C'était pas un fanzine, lui, il voulait faire un des posters. Puis, où il y avait un côté poster et de l'autre côté des textes. Et en fait, au final, c'est le premier numéro de Kipitril, ça a été deux posters pliés, en fait, un en couleur et un autre en noir et blanc. Et si je me souviens bien, sur celui en couleur, c'était un poster de Darko. Et dedans, bah, il y avait Somi, il y a eu Emir, parce qu'il y a eu l'impression, Zantz, pour ce qui était sa rubrique, ça se sample de sources sûres, qui était une rubrique sur... d'où viennent les sons samplés dans les morceaux de rap. Moi, plus interview graffiti et tout ce qui est maquette, mise en page. Je crois que j'avais tout fait d'ailleurs. Sauf la page de Zantz.
Ah, c'est toi qui avais fait ça? Parce que j'allais te dire, dans l'équipe, il y en a quand même...
C'est moi qui l'ai fait.
Toute une partie qui vient de Garamond, donc j'aurais tendance à me dire qu'ils étaient plutôt...
Je suis le seul à pas avoir été à Garamond, c'est moi qui l'ai fait.
Ben ouais, c'est ça qui est ouf, quoi, d'accord.
Non, mais ce que t'as oublié de préciser, c'est que les gens qui l'ont imprimé, parce qu'en fait, dans l'équipe de Garamond qu'il y avait dedans, on est des imprimeurs, la plupart.
Ouais.
Sauf Zantz, qui était photograveur. Photograveur, donc lui, c'était différent. Et toi, t'étais vraiment le seul graphiste, en fait.
Ouais.
Ah oui, toi, t'avais cette formation-là, quand même, de par l'école.
Parce que nous, le magazine, le fanzine, on allait l'imprimer.
C'est Emir.
Voilà.
On imprimait la nuit. Regarde, de toute façon, on faisait tout la nuit. Moi, on avait fait... On allait dans la boîte où je bossais pour finaliser le truc. Après, on a été... C'est Zantz qui sortait. Parce qu'à l'époque, il fallait faire des films entre la maquette, la mise en page et la maquette et... l'impression, il fallait tirer des films. On faisait tirer des films dans sa boîte de com. Et Emir imprimait la nuit dans son... Quand on allait imprimer avec lui la nuit dans son imprimerie. Dans pas la sienne, hein, où il travaillait. Et on a fait trois numéros internationaux, parce que c'était franco-québécois. Parce qu'à cette époque-là, Sino est parti s'installer à Montréal.
Ouais, mais ça, c'est quoi? C'est la fin des années 90? C'est vers 97, non? C'est pas ça?
97. Le magazine, je crois qu'on a commencé en 97, mais il est sorti en 98. Ouais, on n'était pas très réactif.
Non, mais il était, en tout cas, il était de bonne facture, hein, ce magazine. Moi, j'en ai
nous,
encore.
C'est un magazine hip-hop, hein, par contre. Hein.
Oui, c'est ça.
C'était pas que de graffiti, c'était vraiment, on parlait de danse, de rap, de DJ. Et on a fait trois numéros. Je crois que le quatrième est presque fini. Presque fini. J'ai des pages du quatrième qui n'est jamais sorti.
D'accord, ben on va bientôt le faire imprimer alors.
Je crois, il faut retrouver un QuarkXPass qui ouvre les fichiers.
Ah merde, putain, ça va être chaud. Ça. Et il y avait quoi comme magazine à l'époque qui a pu vous influencer?
Quand on a fait ce magazine, on a fait une grosse erreur. Après, avec le recul, c'est une grosse erreur. On était excédé par les magazines où les gars, c'était de l'autopromotion.
Tu penses à quoi comme magazine?
Tu penses à quoi? Je pourrais te citer tous les noms de tous les magazines, en fait. Ouais. Parce que tout le monde a fait ça.
Il n'y en avait pas tant que ça, quand même, de magazines graffiti à l'époque.
Bah, regarde.
Il y avait Graphite, il y avait Explicit Graphics.
Écoute, on parlait de Under End.
Ouais.
Tout à l'heure, le magazine allemand. Bah, le premier, c'est beaucoup les RTA. Et le mec qui le faisait, c'en était un, tu vois.
Ouais.
Donc, il y a quand même, même si par passion, les gars essayaient quand même de se placer. J'en parlais tout à l'heure avec un graffeur. C'est comme les mecs qui organisent des festivals de graffiti et qui se mettent en tête d'affiche, tu vois.
Ouais.
Donc ça, ouais, ça arrivait beaucoup. Après, des magazines, c'était Explicit Graphics, là, le magazine de...
D'Opac.
D'Opac.
Ouais. Voilà. Il y avait Graphite aussi, ouais, qui était fait par Jack Too.
Bah voilà, tu voyais du Jack Too aussi beaucoup. Donc nous, on n'avait pas pris le parti pris de ne pas se mettre dedans. Ce qui était une erreur, parce que c'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Bon, on a été très honnête, tu vois, avec la communauté hip-hop. En interview, il y a eu Beers. T'imagines, il y a eu Beers.
Ouais, c'est dingue.
Premier.
C'est marrant.
Interview de Beers, quand même, 90 dBC, on l'interview alors que ils étaient en guerre. Et il y a eu Kaizen, il y a eu les NTM. Tu vois, on a interviewé des gens qui n'étaient pas forcément dans notre cercle d'amis, qui étaient proches en fait. Parce qu'on ce qu'on a mis dedans, c'est qu'on pensait qu'ils méritaient d'être dedans. À l'époque, je crois qu'ils enchaînaient radio, magazine. Ouais,
et danse et connexion.
Et danse, ouais, et connexion, ouais, tout à fait. Donc ouais, ça faisait pas mal de trucs, plus les logos, par exemple, c'était pas la même période.
Tu parles justement du logo pour la bombe True Colors, c'est ça?
C'est à l'époque où Monocostume, donc c'est-à-dire celui qui s'occupe de... qui est encore là, qui vend de la Montana Black, maintenant. Mm-hmm. Et lui et son associé, qui s'appelait Momo aussi, d'ailleurs, qui ont créé ce magasin Génération 400 ml et
qui se trouve à Gare de l'Est, hein, pour ceux qui connaissent
ça,
pas.
Ouais. Je crois qu'il existe encore.
Bah moi je suis déjà passé devant il y a pas longtemps. L'aventure est là, il me semble. Est-ce qu'il est ouvert? Ça je suis moins sûr, mais
peut-être pas maintenant, mais en tout cas il était ouvert pendant très longtemps. Ouais. Il y a pas très longtemps.
Ouais.
Hein,
ouais. Il y a pas très longtemps, ouais. Et donc je rencontre. Donc je rencontre les gars et puis un jour, en revenant d'un jam, je parle avec eux et je dis « Ouais, mais il faudrait améliorer les bombes et tout, votre cap d'origine il est pourri, il faudrait mettre un autre cap. Et puis quand on perd le bouchon, on voit plus, il faudrait mettre la référence de la couleur dessus. » Et quand je suis revenu d'un jam, c'était à Essen, je crois, on a ramené des caps d'Allemagne parce que... il y avait des caps là-bas qui étaient bien, et on lui a dit ouais, bah, tu devrais mettre ça sur les True Colors et mettre le numéro. Au départ, on voulait qu'ils mettent le nom de la couleur dessus, et en fait, ça a été juste la référence chiffrée. Et il m'a demandé de refaire le logo. Après, comme c'est des gars qui étaient issus de chez Aline Color, et qu'à l'époque, c'était une couronne sur la bombe Aline Color. Il a fallu que je rajoute une couronne, etc. Mais en fait, le logo True Colors au départ, il était plus c'était plutôt des grosses lettres bien blocs. Mais bon, il m'a fait rajouter une couronne et il avait choisi la couleur, le mauve un peu chelou là, qu'il y avait autour. Donc ouais, ça arrivait comme ça.
D'accord.
Et puis pour le logo de cigarette, c'est encore autre chose, c'était en cours. Et il y a un des gars qui était là, en graphiste, qui était en train d'essayer de faire un feu noir, qui carrette, et qui me dit « Ouais, je suis passé... » Lui, il était DJ, le gars, il me dit « Ouais, je suis passé chez Ticarette, et puis il voudrait refaire son logo. » Et donc j'ai fait un feu noir Ticarette, un logo Ticarette, et je l'ai amené à Dan, et il l'a pris. Et quand je me rappelle, quand je l'ai amené, il en avait un de mode tout aussi. Et je me disais, bon, bah c'est bon, il va pas prendre le mien, quoi. Et en fait, il m'a dit, ouais, ok. Et puis, il a pris mon logo aussi, Ticarette.
Chambé ? Et il ressemble à quoi, ce logo ?
Il ressemble à quoi ? Il est écrit Ticarette, c'est un feu gras, en fait, plus ou moins. Mais sans contour, sans rien, c'est difficile à expliquer, ça, oralement. Ça date de la salle... C'était à la salle Endelem parce que Ticarette avait sponsorisé pas les vagabonds, mais les mecs qui ont créé les vagabonds, Momo et tout ça. Il leur avait filé les t-shirts à l'époque, 97. Le logo c'était 97 parce que c'est quand il y a eu Jam on the Groove.
D'accord.
Donc il était sorti et il leur avait filé et j'étais venu à la salle Endelem avec le t-shirt Ticarette.
La salle Endelem, hein, c'était la salle à Clichy où il y avait...
Il y avait des soirées hip-hop régulièrement, tous les mois après.
Il y avait Dynasty qui mixait là-bas.
Il y a eu beaucoup de DJ, il y a eu Posca, Dynasty, Cut Killer, tous les gars de la phase B. Il y a eu énormément de monde qui est passé là-bas en tant que DJ. C'était mortel, des soirées où il n'y a que du bon son. Et beaucoup de danseurs, d'un peu partout dans le monde d'ailleurs, sont passés.
Oui, parce que c'est là où...
Les Rocksteady, les... comment ça s'appelle ? Les carrés là de LA. Style Element.
Style Element, oui, c'est vrai.
Entre autres, il y en a eu plein, il y a eu des Allemands, il y a eu. C'était une bonne salle. Ça, pour moi, c'est un des trucs qui a contribué au revival du break à Paris.
C'est marrant parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler de cette salle, de ces soirées-là.
Moi, c'est pour ça que c'était vieux en fait. Ça se situait. Il y a eu trois salles à Clichy. Il y a une salle qui était à côté de l'hôpital Beaujon, où il y avait des soirées de temps en temps. Il y avait une salle dans une école, oui, en plein centre de Clichy, où là c'était plus des entraînements de danse, où là c'était de la hype. Et tu croisais les DCM ou les 93 MC, quoi, les 93 NDM aussi, parce que les 93 MC sont devenus 93 NDM par la suite, et qui s'entraînaient à la danse et tout à l'époque. Quoi. Mais c'est avant, c'était l'époque de la hype. Après le break, en soirée, on n'en voyait pas. C'était surtout la hype. Et à Clichy, ils avaient cette salle-là, plus une salle qui était au-dessus du marché. Je pense que c'est celle-là qui s'appelait Indoven.
C'est ça, il me semble. Mais en tout cas, pour revenir, pour faire un petit éclaircissement sur le break, si je dis pas de bêtises, normalement, le break, il revient en force après le Battle of the Year ou l'actuel force. Après Family.
95.
Après le 95. Family. 95, exactement. 95. À partir de là, on commence à avoir de plus en plus de breakers dans les soirées.
Bah, c'est là où les battles en cassette vidéo se démocratisent aussi. Parce que tu ne trouvais pas de cassette vidéo. Je pense que c'est l'avènement du caméscope pour tout le monde, tu vois.
Bien
tout
sûr.
Le monde est un caméscope. Je pense que ça a joué, comme les vidéos de
ça. Il y a ça, et il y a aussi le fait que certains avaient des magnétoscopes NTSC et ils faisaient la conversion, parce qu'on n'était pas sur le même
format.
Ouais. Format. Ils faisaient la conversion des cassettes américaines, et donc il y avait tout un business dessus.
Ouais, il y avait un gros business là-dessus, ouais.
Il y avait un gars qui vendait énormément de cassettes vidéo comme ça. Tu te souviens ?
Ouais, je me rappelle.
Sofiane, c'est ça ?
Sofiane, il est toujours présent, lui, je crois. C'était son job, c'était ça.
Tu peux nous... Parce qu'aujourd'hui, t'es plus en métropole.
Non, attends. Attends, on va faire une petite coupure. Je voudrais évoquer un truc avant qu'on aille
Sur ton île.
Avant qu'on aille sur ton île, j'aimerais qu'on aille sur mon île à moi. Moi, j'aimerais qu'on parle d'Herblay parce que Herblay, c'est ma ville d'origine. C'est une ville d'où est issu quand même pas mal de graffeurs qui était assez important. Je pense à Vance, il y a Fusil aussi qui a traîné là-bas, Gaz, enfin bon, Kilo, Salo, plein de gens.
Les UV.
Voilà, tout ce qui va devenir les UV dans un deuxième temps après, mais en effet, on est tous de là-bas, quoi. Et moi, j'étais très étonné parce que je me rappelle plus exactement dans quelles années c'est, mais je me demande si c'est pas aussi milieu des années 90. Je crois que t'as animé des...
Je crois que le premier graphe que j'ai fait à Herblay, c'est en 91.
Est-ce qu'on parle du graphe que t'as fait pour une femme ?
Ah non.
Ah non.
J'ai au même endroit, et le graphe que j'ai peint ce soir-là, c'était avec Riot, des 90 DBC. Et c'était le même mur, effectivement, t'as raison. Et c'est le mur que j'ai repassé, en fait, par la suite.
D'accord, parce que j'ai souvenir d'un gros graphe Julie, ce qu'on s'était dit, c'était que, de toute façon, on avait vu qu'il y avait des petits cœurs ou des trucs comme ça, on en avait compris que c'était un graphe pour ta copine de l'époque, quoi.
C'est ça, tout à fait. Mais le premier graphe à Herblay, c'était un R et un Y, et je crois qu'on avait une chrome pour deux, et un bleu marine, je sais pas quoi, tout dégueulasse, et on avait fait le même mur... en 91.
Ça me dit quelque chose là maintenant que tu t'en parles là, parce qu'il est vraiment juste, c'est à la sortie de la gare, hein, c'est vraiment à 5 ou 10 mètres de la gare. Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ce coin-là, dans ce petit bled?
Une meuf.
D'accord, ok, donc c'était pour ça.
Mais en fait, j'étais avec elle parce que justement, elle faisait une soirée chez elle et c'est devenu ma femme par la suite.
D'accord, ok. Et donc après, donc, du coup, tu es un peu resté dans cette ville et tu as animé des ateliers à la MJC d'Herblay de graffiti.
Alors, pas tout de suite, en fait. Là, c'est je l'ai rencontré en 91, donc c'est pour ça que j'ai peint deux fois à Herblay, quoi, deux fois sur les rails. Hein. Je suis retourné vivre à Herblay en 2003. Et en fait, mes gamins allaient à la MJC et il y avait des graphes. Et j'ai dit que je peignais et je voulais savoir si c'était possible de peindre là, tu vois. Je croyais que c'était un terrain. Donc j'ai demandé à un animateur et l'animateur m'a dit non, c'est pas un endroit où on peint comme on veut. Et donc il a vu que j'étais plus vieux que les gars qui faisaient des graffitis là-bas, et il m'a dit si ça te dit de faire des ateliers. Et donc ouais, j'ai fait des ateliers graffiti sur Herblay.
Et c'était dans quel but? Voilà. C'était quoi? C'était un besoin pour toi de t'exprimer, ou c'était le fait de transmettre?
C'était un travail. Ouais, après il y a toujours eu, de toute façon j'ai toujours eu ce truc de transmission, hein, avec tous les gens que j'ai pu croiser, de transmettre la culture. C'était pendant c'était les vacances scolaires souvent, tu vois, et je faisais venir un autre graffeur. Donc il y a eu j'ai fait venir Brock, D3HC, The Noy, Beers, tu vois, des gars plus ou moins connus, tu vois, et aussi il y a un autre partage avec moi, quoi.
D'accord, ouais.
C'est marrant parce que là, je l'ai croisé il y a une semaine, là, j'ai peint avec un gars de Sergi Pontoise qui est jeune, qui doit avoir la trentaine, tu vois. Et qui me parlait on parlait du coin de Sergi, etc. Donc forcément, des graffeurs qu'il y a dans le coin, tu vois. Il me parlait d'un gars qui me disait, lui, il déchire bien et tout. Il défonce tout dans le coin. Et en fait, c'est un des petits jeunes que j'ai eu quand il était minot à la MJC, quoi.
Mais c'est quoi son blaze?
Tipeee.
Ah, je le connais très bien. C'est un pote.
Ouais.
Bien sûr.
Donc, donc ça sert à quelque chose. Tous les trucs qu'on a fait, que j'ai fait, et en tout cas, la même dynamique dans le groupe, en tout cas, les Ducs, on a toujours eu cette idée de transmission aussi, tu vois.
Je confirme.
Et pour ce que j'allais dire, et pour toi, tu tournes la tête, t'as le gars à côté de toi qui va te dire que c'est vrai aussi, quoi.
Je confirme.
Après, tu vois, c'est pareil, on a apporté des ventes on a apporté des tricolores à Montréal, parce que sinon, c'est installé à Montréal, tu vois. Et la boutique existe toujours, c'est un des hauts lieux du graffiti montréalais. Et ça, c'était parce que j'avais la connexion avec Tricolor, parce qu'on l'a appelé de là-bas des bras cassés, genre vas-y, envoie-nous un mètre cube de bon, on paiera après. N'empêche que la boutique existe encore, voilà.
Et là maintenant, donc t'es parti vivre très loin.
Maintenant, ça fait 13 ans.
Ça fait 13 ans que t'es donc parti vivre à La Réunion.
Ouais, t'es toujours en France, mais t'es très loin, quoi.
Ouais, je suis à 10 000 km.
Alors, c'est comment là-bas? Comment est la scène graffiti?
Alors, là, ça c'est un truc, tu vois, quand on a voyagé avec les GM, etc., en fait, on se rend compte que, en fonction des endroits où tu vas, la scène est différente, tu vois. Parce que ça, je pense que c'est lié à la façon dont le hip-hop est arrivé en fonction des pays. Et à La Réunion, ils ont connu le hip-hop plutôt au début des années 90, tu vois. À part certains, quelques-uns que j'ai rencontrés ici, là, le hip-hop pour eux, c'est début des années 90. Donc tu vois, il y a déjà 10 ans de décalage pratiquement avec la métropole. Et ils ont connu, il n'y avait qu'une chaîne de télévision. qu'il y a certains gars d'ici qui ont vu l'émission à Super HOP. Il y avait quelques breakers au début, quoi, milieu des années 80. Mais Graffiti, c'est surtout, ça a surtout été amené par des gens qui venaient de métropole. Et la scène à Réunion, elle est différente. Parce que les disciplines sont moins liées que ce que nous on a pu connaître dans le hip-hop en France, quoi, à Paris, parce que moi je suis de banlieue, mais on va dire de la scène parisienne, donc il n'y a pas trop de rapport entre les rappeurs et les breakers et les graffeurs, quoi, tu vois. Il y a quelques petits rapports, hein, mais pas tellement, pas tant que ça en fait. Après, sinon, ouais, c'est autre chose, hein. C'est pas le seul moyen de transport en commun, c'est des bus.
Ouais.
Donc il y a pas ce truc de taper tout ce qui est transit entre guillemets.
Bien sûr, ouais. Non.
Après, c'est cool. Ça, c'est pisse ici. Il faut pas, les gars, ils se prennent pas la tête, quoi. Il y a un peu d'embrouille. Tu pars au soleil. Il y a un truc qui est marrant, qui me fait bizarre, c'est que sur les terrains, ils se repassent pas, ou alors ça fait des petites embrouilles, tu vois. Mais moi, ça me fait galer, parce que c'est un terrain, donc... Tu vois, il y a un décalage entre la métropole et ici, c'est que tu vas à Nanterre, tu fais un graph le vendredi, le samedi, il est plus là, c'est un autre graph. Ici, ils peuvent pas imaginer ça.
Ouais, ils respectent les pièces des autres, même sur un terrain, quoi.
Ouais, parce que c'est encore... Il y a encore ce décalage-là.
Du coup, ils peignent pas beaucoup, alors?
Bah si, il y a de l'illégal aussi, tu vois, mais l'illégal, c'est surtout sur les grands axes routiers, quoi. Mais c'est pas le même...
état d'esprit.
C'est pas du tout... c'est pas hardcore.
Ouais.
C'est pas hardcore comme a pu l'être le hip-hop en métropole.
Ok.
C'est le côté hardcore, ils l'ont pas. Je dis pas par là que... ils sont tous un peace and love, hein, mais
il y a un mec qui est très connu là de la Réunion, c'est Jace.
Il est pas de la Réunion, il est du Havre.
D'accord.
Il est du Havre et mais tu vois, même lui, en étant du Havre, tu vois, au Havre il y avait d'autres gars avant lui, tu vois. Donc quand il a fait ses études, il est venu quand il était jeune ici.
Oui.
Et il a énormément influencé le graffiti. Et quand je dis le graffiti, c'est, je pourrais dire, le street art. Parce que le gars a lâché les lettres, en fait. Et il fait un petit personnage qui s'appelle le Gouzou. Et il en a fait partout ici, en illégal, tu vois.
Ouais.
Alors, et il l'intègre toujours dans des situations. Son talent, quoi, pour moi, son vrai talent, c'est la situation, tu vois. Il lui fait vivre des aventures humoristiques sur les murs ou sur les affiches publicitaires. Mais à La Réunion, c'est une méga star. C'est les gars collectionnent les gouzous, quoi. Tu vois, il y a même des mecs qui passent leur week-end à prendre en photo les nouveaux gouzous, quoi. Mais du coup, il a influencé ce truc-là, ce qui fait qu'il y a plein de gens ici qui ont... un petit au lieu de faire un tag, tu vois, ils vont faire un petit personnage.
Ouais, d'accord. Ouais, qui sont dans le... Bah, c'est du street art, quoi, en fait.
Voilà, c'est un personnage, un symbole, des trucs comme ça. Après, il y a des purs et durs du graffiti. Souvent, c'est des métropolitains qui sont venus s'installer ici et qui connaissaient déjà le graffiti avant.
Ah ouais, il y en a là-bas?
Ouais, il y en a qui viennent, qui restent pas longtemps, tu vois. Par contre, là, du coup, pour le coup, la vision des gens du street art et donc du graffiti de ce fait, puisque les gens assimilent le graffiti au street art, même si ça ne l'est pas, ils sont plus bienveillants. Il y a moins cet œil vandale, ouais, t'es un vandale parce que tu fais du graffiti.
Ouais, mais ça vient certainement aussi du fait qu'ils n'ont pas connu ce que nous, on a connu en métropole, c'est-à-dire le côté vraiment très vandale, très tag, qui déchirait tout et qui était donc perçu par les gens comme quelque chose d'agressif, quoi.
Il y a ce côté-là aussi, Mais moi, honnêtement, pour être honnête, quand je suis arrivé à La Réunion, déjà, j'étais surpris de voir des graffitis. Et l'autre truc, c'est la compréhension. Mais pourquoi il y a des graffitis ici, tu vois? Parce que les gars, ils sont sur une île, t'as la plage, le soleil, le lagon. C'est pas très urbain, la Réunion. Donc il y a aussi ce truc-là. Donc ça veut dire que le graffiti ici, c'est juste. Il n'y a pas d'aspect social du graffiti. C'est un aspect plus mode. Donc je pense, hein, c'est mon analyse, après je me trompe peut-être.
Et du coup, toi, comment tu t'inscris dans tout ça là? Elle est où ta place dans tout ça?
Ma place dans tout ça, moi je fais. Depuis quelques. Quoi, j'en ai toujours fait, mais je continue à faire des toiles, etc. Maintenant, graffiti sur toile, ça n'existe pas. Hein. C'est plus du tout la même démarche. Et je m'inscris quand même que les gars savent que ça va vite, tu vois. Je suis arrivé, j'ai peint avec Jess m'a fait rencontrer d'autres graffeurs. Les gars savent que je peins depuis avant qu'ils soient nés. Donc il y a une grosse forme de respect aussi, quand même. J'avoue que les gars respectent ça, quoi. Pour eux, je suis un ancien.
Et pour revenir sur les toiles,
ouais.
Du coup, tu dis que t'en as toujours fait.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression, moi je te connais, j'ai l'impression que ça fait pas très très longtemps que tu fais vraiment des toiles, mais de la vraie production, quoi.
Bah, la première expo, je crois que t'étais là d'ailleurs, la première vraie grosse expo qu'on a fait, c'était à Colombes en 2001.
Je me souviens.
Donc on est quand même en 2021.
Oui, mais tu faisais pas de la grosse production, parce que là j'ai l'impression que tu...
Non, ouais, je me suis mis vraiment à fond dans la peinture, pas dans le milieu artistique, mais après c'est de la peinture en fait. Je suis issu de la culture graffiti et hip-hop, mais il n'y a pas de hip-hop sur toile en fait. T'as beau avoir fait 12 milliards de métros dans ta vie, quand tu te mets sur toile, tu recommences à zéro. C'est un artiste qui débute, on va dire, dans le milieu de l'art, hein, j'entends professionnellement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc aujourd'hui, t'es un artiste professionnel, quoi.
Je fais que ça. Ouais, professionnel, je fais que ça. Je vis de ça. Moi, j'étais dans la com, donc tu vois, par exemple, l'histoire se répète. Le seul magasin de pompes de Lille, c'est moi qui ai fait leur logo.
D'accord.
Quand je suis arrivé, j'ai sympathisé avec les gars et ils m'ont demandé de faire leur logo, donc j'ai fait leur logo. Donc ça, c'est pas vraiment du graffiti, c'est plus de la com, tu vois. Ça, même si ça reste graphique. Et ouais, je fais encore un peu de com, quoi, de temps en temps. C'est que je peux, quoi. Après, artiste, c'est pas facile, hein. Faut manger tous les jours. Faut vendre des toiles, hein, pour manger. Donc les ateliers, les murs aussi, ça met du beurre dans les épinards.
Ouais. Et là, t'arrives à faire quoi? T'arrives à faire une exposition, quoi, tous les combien à peu près?
Ouais, j'en fais beaucoup. De ce qu'on m'a dit, j'en fais pas mal. Mais bon, après, c'est un petit territoire, la Réunion, donc je peux pas te dire à peu près tous les combien après, parce que ça dépend des expos. C'est les expos collectives. Il y a les expos avec des thèmes, et puis après il y a les expos solo. Donc, une expo solo, si t'en fais une par an, déjà c'est pas mal.
Bien sûr, ouais.
Et ouais, je vais être en expo solo, ouais, je vais être à une par an, quoi. Après, la Réunion, c'est particulier au niveau de l'art, parce que il n'y a pas vraiment de marché de l'art. Quoi, le marché de l'art, comme on l'entend en métropole, n'existe pas à la Réunion. Parce que toutes les œuvres d'art qui rentrent à la Réunion, elles sont taxées à 30%, 33%.
Et du coup, est-ce que dans tes espoirs, ce serait de pouvoir aussi vendre un peu sur Paris, j'allais dire.
En métropole?
Ouais, de bouger, ouais.
T'essayes de travailler là-dessus?
De bouger. Après, comme j'avais commencé avant, j'avais fait des trucs. J'ai fait des expos avec Taxi Gallery, Valériane, pour ne pas la citer. On en avait fait quelques-unes, on avait fait un truc On en avait fait quelques-unes quand même. Et puis là, il y a quelques mois, je lui avais filé des sketchs, a fait une expo sur les sketchs. Et donc, ouais, j'étais exposé à Paris parce qu'il y avait une expo sur les sketchs. Elle m'a demandé de lui envoyer des sketchs. Je lui ai envoyé. Elle en fait une à Metz au mois de juin. Et je vais lui renvoyer des trucs aussi. Après, ouais, voilà. Après, le problème de l'art, en fait, c'est qu'il y a une distinction entre le Il y a personne, à part quelques Américains, qui font réellement du graffiti sur toile. Un gars comme Sin fait du graffiti sur toile parce que lui, il a sa base de clients qui sont en fait des gars comme nous, qui ont kiffé Sin et qui vont acheter Sin. Mais le graffiti, vraiment graffiti, ça se vend très peu sur toile.
Oui, en fait, il faut que les mecs, comme tu disais un peu... tout à l'heure, quand tu te mets dans ce milieu-là, qui est l'art, il faut repartir à zéro. Moi, je pense même carrément qu'il faut, il faut proposer autre chose. En fait, faut proposer une démarche, un projet artistique qui,
c'est ce que j'essaie de faire,
qui est différent. En fait. Voilà, qui est différent de ce que.
Après, je reste attaché à la lettre, mais en fait, en gros, si tu vois les toiles que je fais, c'est plutôt de l'abstrait, on va dire. Il y a toujours de la lettre. Le mec qui a fait du graffiti, ça lui saute aux yeux direct. Mais moi, je sais qu'il y a 80% des gens qui viennent aux expos qui ne voient pas qu'il y a des lettres. C'est marrant. Ça m'amuse parce que les gars voient autre chose, tu vois. Après, l'idée, c'est de transmettre plutôt l'énergie et l'ambiance qu'il peut y avoir dans le graffiti. En tout cas, mon boulot à moi. Et tu vois, par exemple, d'essayer de te remettre dans le contexte, dans sa tête, de comment ça se passe quand tu fais un vrai graffiti, quoi. Donc, l'éclairage, les lampadaires orange pourri, le côté vitesse aussi, parce qu'en fait, quand tu vois des graffitis, c'est toujours en mouvement. Soit toi, t'es assis sur le quai et tu vois le train passer, ou alors t'es dans le train et tu vois les murs défiler. Donc en fait, c'est pas une image figée, le graffiti.
Ouais, et puis même comme
dit... Son mouvement.
Ouais, voilà, c'est même comme disait J1 BBC, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une énergie dans la pièce que t'es en train de peindre, quoi, tu vois. Même si t'es toi, spectateur, face à un mur, il faut que la pièce... C'est pour ça que souvent, il y a des b-boys qui sont désarticulés, qui font des phases. Il y a un rapport, lui-même, je crois, il voit une sorte de rapport très, très proche avec la musique, quoi, tu vois, dans tout ce qu'il peut faire.
Moi aussi, la notion de rythme.
Ouais.
Moi, tout, il exprime ça par le fait que tout ce qui est... toute la culture hip-hop, donc ça veut dire... musical, danse, graffiti, le côté syncopé. Et oui, effectivement, c'est une réalité. Après, l'ambiance du graffiti illégal, c'est-à-dire la nuit, le fait que tu rentres chez toi, de la peinture partout sur les mains, sur les fringues, les taches d'encre, tout ce qui fait en fait cet univers-là.
On est dans le flow, quoi.
Ouais, c'est... Essayez, ouais, voilà, on va dire, pour ceux qui vont comprendre, ouais, le flow, c'est un truc qui est propre à nous, quoi, le mouvement.
Oui, c'est ça.
C'est intéressant, hein, c'est une autre démarche. Après, j'ai de la chance, j'ai été invité à faire un mois de résidence en Chine, dans un gros truc. Après, je bouge, quand j'essaie de bouger, dès que je peux bouger, je bouge. Et après, à La Réunion, il y a un marché local, beaucoup, puisque les œuvres sont créées, tout ce qui est créé ici n'est pas taxé par l'État, tu vois, puisque ça ne rentre pas à La Réunion. Donc du coup, il y a un petit marché local, où il y a des mecs qui vendent très bien, quoi. Notamment Jess, mais Jess est devenu, lui, international. C'est un truc qui parle à tout le monde, tu vois. Les gens, ils voient un petit bonhomme... plutôt marrant et mignon, ça marche plus qu'une tête de mort, tu vois. Donc, de toute façon, on retrouve ça aussi maintenant dans les beaucoup de graffeurs, ex-graffeurs, qui sont mis sur toile, qui font des personnages qui vont te modifier un Mickey, etc., quoi. parce que c'est pas plus facile d'accès, que ça se vend.
Ouais,
il y a le côté, commercial qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi.
Bien sûr, ouais.
Ouais, et honnêtement, je le fais aussi. Hein. Là, j'ai fait un panneau de signalisation routière, j'ai mis une bandée rose, je l'ai accroché, je l'ai vendu direct.
Bah ouais, c'est la pop culture, ça parle à plein de gens.
Tu vois.
Ouais, ouais.
Oui, voilà. Et puis il y a le pop art aussi qui est passé par là.
Bien sûr.
Et bon, après bah, dans l'art, tu fais des séries et voilà, quoi, tu t'évolues au fur et à mesure. Et puis voilà. Bon, c'est pas facile, hein. c'est un métier, c'est de l'argent aussi, il faut investir. Parce qu'il y a une notion de présentation, de propreté aussi, de net, de les, c'était, les gens, ils achètent des trucs. Parce que tu peux te dire, ouais, je vais acheter une toile chez Jiffy et puis je vais la peindre, mais ta toile, elle est toute pourrie. Et les gens qui achètent de l'art, ils veulent pas des toiles pourries, quoi. Donc, ouais, faut investir un peu, quoi. Mais ouais, c'est un boulot. C'est aussi dur que d'être sportif de haut niveau. Hein.
Non, mais en tout cas.
Faut produire.
Bah ouais, mais en tout cas, ouais, comme tu dis, faut produire et ça. Ça résume bien quand même ton côté passionné, parce que du coup, ça te permet d'allier bah, ta passion avec ton métier, avec tes activités actuelles. Donc, c'est assez cool. Et je trouve que ça boucle assez bien notre entretien. Je ne sais pas ce que tu en penses, ouais. Pierre.
Bah, moi, j'aimerais te poser une dernière question, un peu pour conclure le tout. Si justement, si tu veux faire une conclusion de ta vie de hip-hopper, qu'est-ce que ça serait ?
Bah, ma vie, c'est le hip-hop. Hein. Et un peu, ouais, comme tu vois, il s'était fait un tatouage, c'est d'ailleurs avec une panthère rose. Il avait été écrit Graffiti is my life story. Ouais, je pourrais dire hip-hop is my life story. Je regrette rien.
Très bien.
Bah, mortel. Bah, merci beaucoup. C'est cool.
Ouais. Bah, c'est moi.
Merci à toi, ouais.
T'as envie d'ajouter d'autres choses ?
Ouais, je dédicace l'émission à tous mes pauvres, à tous mes potes en fait, parce que en fait, c'est beaucoup une histoire d'amitié justement, parce que en fait je me rends compte que la plupart des gens avec qui j'ai fait des trucs dans le hip-hop, c'est devenu des amis. Alors je sais que c'est pas pour tous les, dans tous les groupes, il y a des groupes où ils sont 200 000, la plupart ils se connaissent pas. Et ouais, j'ai eu la chance de tomber sur des gens intéressants et on est toujours en contact pratiquement tous. Alors un peu moins parce que j'habite très loin. Voilà quoi. Dédicace à tous ceux qui font avancer le mouvement.
Bon bah merci. Merci, voilà, merci de nous avoir accordé du temps. Bah c'est
non,
cool.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Bon, allez Gus, ciao. Allez, ciao.
Allez, à plus.
Voilà, c'était le deuxième podcast produit par SoFresh et en collaboration avec Netfeeders. Merci à vous pour l'écoute et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé.
Si vous voulez nous soutenir dans ce projet, c'est très simple. Il vous suffit de mettre des likes, des commentaires et surtout de partager notre podcast sur les réseaux.
À très bientôt et comme le dit toujours Somi,
la culture c'est comme la musique, ça se partage.